Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale et citoyenne.
Écologie économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce mégaphone où il va être question d'école et d'égalité, ou plutôt d'inégalité sociale. En la matière, la France n'est pas particulièrement bon élève. Selon l'enquête PISA, réalisée en 2018 dans 79 pays de l'OCDE, la France fait partie des pays où les inégalités scolaires sont les plus élevées, aux côtés de la Belgique et de l'Allemagne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas précis, celui de l'école Nelson Mandela de Saint-Herblain. Depuis un an, parents d'élèves, acteurs politiques locaux et syndicats se battent pour obtenir son classement en établissement prioritaire avec plus de moyens humains. Avec nous aujourd'hui en première partie d'émission pour évoquer ce sujet, des représentantes des parents d'élèves. Ensuite, vous entendrez les représentants syndicaux qui ont été des soutiens importants dans ce mouvement. Puis nous finirons avec le point de vue de deux acteurs politiques locaux, celui du maire de Saint-Herblain, Bertrand Affilé, et de la députée Ségolène Amiot.
On commence donc tout de suite avec la parole de trois parents d'élèves, trois mamans qui sont mobilisées en faveur de l'école Nelson Mandela. On va commencer par vous, Imane, bonjour.
Bonjour.
Vous avez trois enfants scolarisés à l'école Nelson Mandela?
Tout à fait.
Vous pouvez nous rappeler leur classe?
Alors, mon aîné est en CM2, 11 ans, la Benjamine en CE2, 9 ans, et le dernier, le Benjamin, en grande section.
Ça fait 8 ans au total que vous êtes maman d'élèves scolarisés à l'école Nelson Mandela.
Oui, depuis
l'inauguration.
Oui, depuis l'inauguration de l'école en 2015.
En 2015, quand l'école a ouvert, c'était un espoir, une fête sur le quartier d'avoir une école toute neuve de proximité?
Bien sûr, car il faut savoir que anciennement l'école Mandela, c'est l'école de Langevinière, qui était située du côté Sillon de Bretagne, rue de Langevinière. Et afin de garantir une mixité sociale, il a été décidé de créer, entre guillemets, l'école Nelson Mandela, donc porteuse d'espoir pour qu'il y ait les gens un peu de la Chésine qui viennent avec les gens du Sillon, qu'une mixité sociale se fasse.
On va en reparler de cette mixité sociale entre les intentions et la mise en œuvre. Il y a des écarts importants, c'est l'objet de votre mobilisation. À vos côtés, Imane, Hélène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également maman de trois enfants.
Oui.
Deux toujours à Nelson Mandela?
Oui, voilà, j'en ai encore une qui est en CE1 et mon deuxième est en CM1. Et mon grand est parti au collège Gutenberg, donc juste à côté du Sillon, et a fait aussi également quelques années dans cette école.
Sur le CV, ça fait 3 ans de fréquentation de l'école Nelson Mandela?
Oui, c'est ça, parce que nous sommes arrivés un petit peu après. Enchantée d'arriver dans une belle école, toute neuve, qui propose également des classes à horaires aménagés champs. Et c'est une opportunité que peu d'écoles ont. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on était vraiment heureux d'arriver dans ce nouveau quartier.
Merci. Et une troisième maman, parent d'élèves également de l'école Mandela. Bonjour.
Bonjour, donc enchantée.
3 enfants aussi?
Et oui.
Donc, sur 3 niveaux complètement différents.
Exactement. Donc, ma plus jeune est en petite section, ma deuxième fille est en CP et mon grand en CM1.
6 ans à l'école Nelson Mandela en tant que maman?
6 ans en tant que maman et environ 3 ans en tant que parent élu.
Est-ce que vous pouvez nous présenter cette école Nelson Mandela? Donc, on est à Saint-Herblain. Qui sont les élèves qui les fréquentent? Je crois qu'on est à peu près à 360 élèves. Oui. On est sur de la maternelle, du primaire?
Oui, donc c'est une école qui accueille 365 élèves. C'est l'école du Sillon. Le Sillon, c'est le grand bâtiment que beaucoup connaissent sur Nantes, qui est constitué de 781 logements, qui accueille beaucoup de familles en situation sociale défavorisée. Pour vous donner quelques chiffres, le taux de pauvreté est de 58%, alors que sur Saint-Herblain, la moyenne, elle est qu'à 14%. Le taux de chômage, il est à 48%. Contre 5,5% sur la commune. Et puis là, ce qu'il faut noter, c'est que quand même 41% des jeunes de 16-25 ans ne sont pas scolarisés ou sans emploi. Donc c'est des chiffres qui sont au-dessus des alertes rouges dans des autres communes et qui reflètent bien les besoins de l'école.
C'est aussi une école où il y a plus de 37 cultures différentes. Pour la plupart, les enfants sont allophones et issus de familles monoparentales.
Ah oui, on est donc sur une école un peu spécifique à la fois en termes de diversité, mais aussi de pauvreté.
Oui, notamment autour du Sillon, effectivement, le Sillon est parfois tristement connu pour des problèmes de trafic, pour des problèmes de prostitution, ce genre de choses dont on entend parler dans les faits divers. Évidemment, pour des enfants qui vivent dans le Sillon, pour des familles dans situation précaire, c'est difficile d'apprendre. Mais on rappelle aussi que c'est un quartier qui est vivant, qui est riche de toutes ses cultures, de sa jeunesse et de tous ses enfants qui ont soif d'apprendre et qui sont prêts encore vraiment à apprendre.
Les conditions scolaires, quelles sont-elles ?
Moi, si vous voulez, je fais un bref rappel. C'est-à-dire qu'en 2015, l'école était sous un contrat, on va dire, qui s'appelait le CAPE. Et il y avait entre 17 et 20 élèves par classe. Donc ça, c'était en 2015. Il n'était plus déjà plus dans le REP. Hein. Parce que, à savoir, oui. Nelson Mandela, en tel quel, n'a jamais été réseau d'éducation prioritaire renforcée. Jamais. Mais conscient des enjeux, conscient de la population que l'école accueille, eh bien, des projets ont été mis en place et des contrats locaux, actuellement CLA, ont été mis en œuvre. Cependant, depuis 2015 à aujourd'hui, il n'y a eu aucun effort de fait. Il n'y a pas eu de volonté forte de donner les moyens équivalents REP.
Les moyens équivalents REP, ce sont des classes dédoublées, oui. Grande section CP, CE1, oui. Et puis aussi des effectifs limités à 24 maximum pour les autres classes. Peut-être qu'on peut citer aussi une prime de 400 euros pour les enseignants, des temps dédiés, d'échanges, de mise en réseau avec les autres acteurs. Ça change vraiment la donne, et pour les équipes éducatives et pour les enfants.
Complètement. Et d'ailleurs, on peut aussi constater l'épuisement des maîtresses qu'on croise chaque jour à mener leur classe au mieux possible. Voilà. Et elles ont besoin de ce soutien.
Parce qu'il faut rappeler que nous disposons de toutes les caractéristiques pour être dans ce réseau, dans le réseau d'éducation prioritaire renforcé. Il faut savoir que les enseignantes accueillent un public qui est le même public qui est dans l'éducation prioritaire renforcée, mais elles n'ont pas les conditions de travail, elles n'ont pas la reconnaissance avec les primes. Donc c'est faire un travail équivalent à de la REP+, en n'étant pas REP+.
On va revenir très rapidement sur les raisons qui amènent à cette situation aberrante, à ce vide administratif et éducatif derrière. Avant, une question. Est-ce que ça a impacté, est-ce que vous avez constaté un impact sur la scolarité de vos enfants ou des autres en termes d'absentéisme du corps enseignant, de fuite des élèves les plus favorisés vers le privé? En l'état, cette absence de reconnaissance de l'école Nelson Mandela en REP, qu'est-ce que ça, au-delà de l'épuisement des enseignantes ?
Alors, au-delà de l'épuisement, on constate cette année, enfin, on a calculé qu'il y avait eu 65 absences non remplacées. Donc, on ne peut pas dire que c'est directement lié au fait qu'elles ne soient pas, on va dire, valorisées dans leur travail à juste hauteur. Mais on s'interroge quand même sur la fatigabilité liée au métier. Et puis, on se dit aussi que si nous étions en REP, il y aurait une brigade de remplacement spécifique pour l'école. Et ça, on n'en bénéficie pas puisqu'on n'est pas dans l'éducation prioritaire.
Et c'est des enfants qui vont dans les autres classes, qui sont reçus à l'école, mais des enfants pour qui c'est encore plus difficile après de raccrocher les wagons, bien évidemment. Et pour les enseignantes et enseignants qui se donnent vraiment et qui sont très investis, il y a énormément de projets dans l'école, ils font énormément de choses et on a des enfants qui sont vraiment super, d'ailleurs peut-être trop, hein, puisque l'école ne fait sans doute pas assez parler d'elle à cause de ça, tant mieux, hein, tant mieux pour eux et tant mieux pour nous. Mais toujours est-il qu'il y a 4, presque 5 enseignants qui vont quitter l'école cette année, qui ont demandé des mutations pour des raisons personnelles.
Sur 17 classes, donc 17 enseignants.
Sur une dizaine d'enseignants. Et évidemment, pour des raisons personnelles. Mais s'ils avaient eu des primes, s'ils avaient touché plus d'argent, probablement qu'ils seraient restés.
Alors, à savoir sur ces départs, sur les départs de cette année, certaines sont restées sur l'année scolaire 2022-2023. Avec espoir, dans l'espoir d'intégration, dans l'espoir d'avoir des moyens supplémentaires.
On y arrive justement sur les espoirs déçus qui ont été les vôtres en termes de mobilisation. Est-ce qu'il y a une fuite de l'école Nelson Mandela pour les élèves les plus favorisés ? Vous disiez qu'à l'ouverture, à l'inauguration, il s'agissait de créer une école de mixité sociale qui brasse les enfants de la chaisine avec ceux du sillon. Et est-ce qu'il y a eu au préalable une mixité sociale effective à Nelson Mandela?
L'intention de mixité était effectivement présente à l'ouverture, mais il est certain qu'aujourd'hui, on constate la fuite vers le privé. Certaines familles le disent ouvertement qu'elles ne laissent pas leur enfant Mandela à partir du CP notamment, pour des raisons d'apprentissage fondamentaux, Et puis, parce que la mixité fait peur au final aussi à certaines familles.
Et vous, vous avez choisi, puisque vous êtes là, que vous êtes mobilisée pour l'école Nelson Mandela, d'y laisser vos enfants. Oui. Pourquoi? Par choix, défense de l'école publique, côté pratique?
Alors personnellement, oui, moi c'est un vrai choix de valeur, hein, de valeur citoyenne. Voilà, si on veut élever nos enfants et développer le vivre ensemble, je ne vois pas comment on peut faire en restant entre soi. L'idée, c'est vraiment d'apprendre, prendre des cultures différentes, de se rendre compte des difficultés que peuvent vivre certains enfants, et puis de développer l'entraide et la solidarité. Voilà, c'est un vrai choix personnel qui est probablement partagé par d'autres parents.
Ceci étant, le discours qu'on entend, c'est que si les classes étaient dédoublées, évidemment que beaucoup de parents laisseraient leurs enfants. C'est-à-dire que là, la question qui se pose, c'est des classes qui augmentent à 24, 25, ce qui est probablement et souvent moins que dans le privé, mais malgré tout, une classe dédoublée, pour eux, c'est sûr, ils restent. La question se pose.
Oui, parce qu'il faut savoir que la fuite dans le privé ne concerne pas que les familles les plus aisées. C'est vraiment c'est là qu'il devrait avoir une alerte forte. C'est-à-dire que des familles qui sont pour le public, qui souhaitent être dans le public, voyant que leurs enfants n'ont pas les moyens nécessaires à l'apprentissage des fondamentaux, décident d'aller travailler, de prendre un autre travail pour se permettre de mettre leurs enfants dans le public, dans le privé et à contre-cœur. Cette décision à Mandela, elle est souvent très réfléchie. Donc souvent, c'est réfléchi, ils se disent, est-ce que je ne fais pas une erreur en mettant mon enfant dans le privé? De quoi je vais le priver en le mettant dans le privé? Parce que, comme on tient à le souligner, Mandela, c'est une école riche, multiculturelle, mais le fait de ne pas créer de problème, de ne pas être une école à problème, on est sur le fil, on est toujours à la marge, et parfois ça nous pénalise.
Et vous, en tout cas, il y a aussi, et vous le dites, des richesses à Nelson Mandela, les 37 cultures, la motivation de l'équipe pédagogique, la proximité de l'école aussi. Ça, ce sont des choses qui vous ont, j'imagine, motivé pour laisser vos enfants. Est-ce que vous diriez qu'ils ont eu une éducation, ou qu'ils ont encore aujourd'hui une éducation de qualité?
Moi, je parlerai pour mes enfants. D'abord, les instituteurs et institutrices font un travail remarquable. Il y a énormément de projets pédagogiques, innovants. Tout est fait pour cela. Après, je sais que moi, mes enfants sont en capacité de travailler par eux-mêmes, de développer des choses, même s'il y a parfois un peu de bruit dans la classe, même s'il y a des élèves qui ont des besoins particuliers qui ne sont pas forcément pris en charge, même s'il y a des élèves pour qui c'est plus difficile, nos enfants savent, apprennent à faire avec et sont conscients que c'est plus difficile pour d'autres, donc ils y parviennent. Mais toujours la question se pose, est-ce que ailleurs ce serait pas mieux? Je refuse de l'affirmer, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Je pense que c'est pas mieux ailleurs, mais c'est un peu ce que les gens finissent par penser. Et c'est pour ça qu'il faut aider ces jeunes enfants aussi.
Moi, pour les conditions d'apprentissage, la question de la stabilité de l'équipe se pose, de l'équipe enseignante se pose. Donc, pour que nos enfants soient épanouis à l'école, il est important qu'une stabilité de l'équipe pédagogique se maintienne. Et avec le manque de reconnaissance par des primes, le manque de reconnaissance du statut particulier de l'école orpheline de l'école Nelson Mandela, on se retrouve avec des professeurs qui sortent tout juste de l'école. Ils vont être formés, ils vont être très bien formés à Mandela. Mais au bout d'un moment, elles se disent, moi, je fournis ce travail. J'ai le même public qu'en REP+, mais tous les mois, je suis moins bien payée que si je le faisais ailleurs. Donc au bout d'un moment, la volonté de bien faire est là. Les apprentissages et le souci pédagogique est là. Mais après, il y a tout le fait de se dire, si j'étais en REP, je serais mieux payée.
Je pensais juste à une étude qui est sortie au niveau du ministère dernièrement par rapport aux performances scolaires des établissements publics et privés. Cette étude, elle montre qu'en fait, les enfants, on va dire, socialement favorisés, qui sont scolarisés dans des établissements, on va dire, REP, enfin de l'éducation prioritaire, réussissent aussi bien, voire mieux, que les enfants qui sont scolarisés dans les établissements privés. Et que ça développe des compétences sur les performances non scolaires comme la solidarité et l'entraide. Et pour les enfants socialement défavorisés, cette étude montre qu'en fait, le fait d'être scolarisé avec des enfants plus favorisés, donc avec de la mixité, ça améliore leur confiance en eux et leur capacité de croire en leur performance scolaire. Et donc, si les résultats... En fait, les études ne montrent pas de lien de cause à effet réel sur les résultats purement scolaires. Par contre, ils montrent des effets positifs sur le fait de vivre ensemble, en fait. Et c'est aussi des valeurs importantes de la République.
Et sans mixité, en fait, à l'heure où on parle tous les jours de mixité, donc pour moi, la mixité, c'est comme l'inclusion. Sans moyens, ça ne peut pas fonctionner.
Vous venez d'entendre trois parents d'élèves de l'école Nelson Mandela de Saint-Herblain et plus précisément de la zone Sion de Bretagne. Les 10 dernières minutes de cet entretien ne sont bien malheureusement pas diffusables en raison d'un problème technique sur l'enregistrement. Nous allons donc tenter d'en résumer brièvement le contenu. Bien que l'école Nelson Mandela accueille une large majorité d'enfants très défavorisés et de nombreux allophones, elle ne bénéficie pas d'un classement en REP+, qui lui permettrait notamment des moyens humains supplémentaires. Nelson Mandela est loin d'être un cas isolé en France. Selon un rapport de France Stratégie daté de 2019, près de 680 000 écoliers, 13,5% du total, sont scolarisés dans une école dont le label ne correspond pas au niveau de vie du territoire. La raison ? Le classement en REP+, dépend du collège de rattachement. Ces derniers drainent des élèves d'écoles diverses et il se crée parfois des désajustements entre le label des écoles et le niveau social des quartiers. Ce sont les écoles dites orphelines. Elles attendent avec impatience une refonte de la carte des zones prioritaires qui ne cesse d'être poussée depuis 2019 et qui est désormais annoncée pour 2024-2025. D'ici là, ce sont les rectorats académiques qui sont censés localement et au cas par cas attribuer des moyens supplémentaires. Du côté de l'école Nelson Mandela, les parents d'élèves et leurs alliés, syndicats et politiques locaux, se mobilisent sans relâche depuis un an avec une stratégie d'encerclement. Envoi de plus de 200 cartes postales d'enfants au ministère, courrier, entretien, sans résultat significatif pour le moment. Ils réclament toujours d'être reçus par le ministre de l'Éducation nationale et comptent bien continuer à se battre pour les enfants et l'école publique du quartier.
Lors de l'enregistrement avec les mamans représentantes des élèves de Nelson Mandela, un magnifique texte avait été lu et écrit par l'une des mamans. Malheureusement, il a été perdu, alors je vais vous le lire. Si Mandela était une femme, elle serait une femme battue, qui ne cesse d'appeler à l'aide en vain sans obtenir de soutien. Si Mandela était un enfant, il serait maltraité, harcelé, son mal-être et sa souffrance seraient alors ignorés. À l'heure où des millions d'euros sont débloqués pour la défense, quelles armes accorderez-vous à nos écoliers ? N'attendez pas un drame de plus, pour dire jamais plus, car nous sommes las de vous alerter. Bien que l'école soit située rue de Danube, que la Savèze longe le chemin des écoliers et que la Chésine traverse notre parc véritable havre de paix, nous n'attendons pas d'intégrer le REP+ au fil de l'eau. Nous espérons des moyens à hauteur des besoins dès la rentrée prochaine pour une véritable mixité et la réussite de nos écoliers. On a beach tree with lake of and say love me. Why did she do it? Was she scared? Was she bored? On a beach tree with lake of and say love me. Why did she do it? Was she scared? Was she pushed? Do something pretty while you can. Don't fall asleep. Skating a pirouette on ice is cool. Do something pretty while you can. Don't be a fool. Reading the gospel to yourself
Clément Brochard, vous êtes co-secrétaire départemental de Sud Éducation et accessoirement professeur des écoles à Saint-Herblain, à l'école Stéphane Hessel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez accompagné, aux côtés d'autres syndicats aussi, la mobilisation de l'école Nelson Mandela ?
Oui, bonjour. Alors, c'est une question qui est dans les tuyaux depuis longtemps parce que l'école Nelson Mandela a perdu son statut d'école d'éducation prioritaire en 2015, mais on a accéléré, on a passé à la vitesse supérieure à partir de l'année dernière, où collègues, parents, accompagnés des organisations syndicales ont décidé de s'organiser. Donc à partir, je dirais, du mois d'avril 2022 à peu près, on a lancé un mouvement, donc on a fait beaucoup de réunions avec les parents, avec les enseignants et les enseignantes de l'école et avec donc les organes syndicales. Et donc on a décidé que c'était plus possible parce que la souffrance au quotidien pour les familles et pour les collègues était trop élevée. Donc ça s'est manifesté par différentes actions, différentes journées de grève, différentes audiences auprès de l'administration. Et donc là, un peu plus d'un an après, on est toujours en train de combattre.
Je précise que les professeurs ne peuvent pas s'exprimer individuellement. Hein. Souvent, il y a le devoir de réserve qui est un peu en balance. Et que là, le rôle des syndicats est d'autant plus essentiel, en tout cas pour la parole publique qu'on essaie de porter dans cette émission. Vous étiez hier sur une réunion avec le rectorat. Justement, pour essayer de négocier non seulement pour l'école Nelson Mandela, mais au-delà, à l'échelle départementale, un peu les attributions de poste. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, ce que vous vouliez et ce que vous avez obtenu ?
Ce que veulent les parents, et à juste titre, de manière tout à fait légitime, et ce que veulent les collègues et tous les acteurs mobilisés aux côtés de Mandela, c'est le rattachement de l'école au réseau d'éducation prioritaire, parce que c'est une injustice criante que l'école ne le soit pas. Nous, dans le cadre départemental, ça, on peut pas le demander parce que c'est le ministère qui va décider ça. Par contre, on peut négocier des moyens auprès de la directrice académique. Donc, les collègues nous avaient demandé de défendre leur école, ce qu'on a fait, bien sûr, avec l'ensemble des organes syndicaux. Et donc, ce qu'on demandait, c'était à minima l'ouverture de 3 postes supplémentaires. Donc, 3 ouvertures de classe à Nelson Mandela. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la directrice académique, elle travaille dans une dotation qui est de moins 22, c'est-à-dire que le rectorat lui demande de fermer 22 classes, de trouver un équilibre à moins 22. Donc on est très contraint par ça, mais grâce à la mobilisation des familles, que je veux vraiment saluer, grâce aux syndicats, grâce évidemment aux enseignants et aux enseignantes qui sont aussi super mobilisés, on a réussi donc à obtenir 2 choses, donc le maintien d'une enseignante supplémentaire à l'école Nelson Mandela pour l'année prochaine, et l'ouverture d'une classe supplémentaire. Donc c'est pas encore suffisant. C'est un premier pas en avant. Ça veut dire que la directrice académique a une petite attention quand même pour l'école, qu'on a obtenue grâce à un rapport de force. Mais bien sûr, ça signifie qu'il faudra continuer pour que l'école ait les mêmes moyens qu'une école de REPLUS, ce qu'elle devrait avoir.
C'est à peu près un tiers de la revendication. L'objectif, c'était 3 ouvertures de postes en plus. Vous en avez une. Voilà, on est sur cette proportion-là.
Oui, bien sûr, on en est là. Alors, en plus, là, on ne parle que des postes. On en voulait 3. Mais il faut savoir que quand on est en REPLUS, Peut-être que les parents et les enseignants vous ont déjà un petit peu parlé, mais on a aussi une prime quand on est enseignant-enseignante. On a aussi des temps de concertation, c'est-à-dire que 18 demi-journées sont banalisées pour les collègues, où on est systématiquement remplacé pour travailler sur comment faire fonctionner l'école. Donc on a conscience qu'on en est encore bien loin, donc c'est pour ça qu'on continuera le combat, mais grâce à l'énergie déployée, on fait quand même des petits pas en avant.
Ségolène Amiot, la députée de la circonscription 3, qui disait que l'enjeu, le rectorat et le ministère se renvoyaient la balle. Est-ce que vous, en tant que syndicat, vous avez un impact au niveau national ou directement auprès du ministère pour faire entendre la voix de Nelson Mandela?
Alors déjà, je peux aller que dans le sens de Ségolène Amiot parce qu'on est habitué à pratiquer l'administration qui... aime bien trouver des dispositifs. Là, le nouveau dispositif, c'est notre école, faisons-le ensemble. Et il faut vraiment mesurer le degré de cynisme d'un tel dispositif quand on sait que quand on est reçu, déjà, la première étape, c'est de recevoir une réponse. Et on n'en a pas toujours. Et ensuite, le département renvoie à la région, qui renvoie au ministère, qui renvoie à nouveau vers la région. Donc ça, on est vraiment habitué à être confronté à ça. Et donc nous, évidemment, nationalement, avec nos organes syndicales, on agit, parce qu'on a aussi des représentants au niveau fédéral et au niveau national. Donc on demande à ce que chaque année, à ce que soit revue absolument la carte d'éducation prioritaire, pour que les écoles abandonnées, les écoles orphelines telles que Mandela, soient enfin reconnues comme écoles du réseau d'éducation prioritaire. Alors là encore, on est un petit peu la vieille rengaine, c'est de dire... on reverra la carte d'éducation prioritaire l'année prochaine. Donc là, a priori, ils nous ont dit on travaille dessus en 2024, mais on attend des actes parce que ça ne suffit pas, les engagements oraux.
Et puis, rappelons que cette refonte de la carte de l'éducation prioritaire devait avoir lieu en 2019 et que chaque année, elle est reportée depuis longtemps maintenant. Justement, par rapport à la politique des zones prioritaires, il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre en préparant cette émission, c'est pourquoi le lien avec le collège de rattachement. Là, c'est ce qui se joue sur l'école Nelson Mandela. Nelson Mandela a un indice de positionnement social qui devrait lui permettre très très largement d'être classé en établissement prioritaire, mais son collège de rattachement est plus mixte socialement et du coup école orpheline comme beaucoup d'autres en France. Pourquoi ce critère et est-ce que au niveau syndical vous militez ou pas pour une refonte?
Oui, bien sûr. En fait, on se pose la même question que vous parce que très souvent l'administration répond à des logiques davantage comptables plutôt que de répondre vraiment aux besoins de terrain et à la souffrance vécue par les familles et les enseignants. Donc ce qu'on demande, parce qu'avec ce dispositif-là, vous avez raison de le préciser, comme on dépend du collège, il y a beaucoup d'écoles orphelines sur le département. Donc nous, on demande des critères beaucoup plus fins pour que les écoles qui ont un collège de rattachement qui n'a pas un public qui permettra le rattachement au réseau d'éducation prioritaire, pour que ces écoles-là elles soient effectivement reconnues et qu'elles aient des moyens à hauteur des besoins. Donc dans la refonte de la carte scolaire, il y a ce critère-là effectivement. Comment faire pour les écoles et donc sortir de cette logique du seul collège de rattachement, en effet.
Au niveau de, vous l'évoquiez, donc il y a plusieurs dispositifs qui sont censés pallier, on va dire, à l'absence de classement en REP. Vous citiez Mon École, faisons-la ensemble. Il y a les contrats locaux d'accompagnement, il y a la cité éducative. Enfin, il y a tout un tas de dispositifs parallèles qui sont censés aussi donner des moyens aux écoles qui en ont besoin, et notamment dans les quartiers populaires des grandes villes. Est-ce que là-dessus, vous constatez, vous y êtes favorable, et au niveau de Sud-Éducation, et vous constatez une amélioration? Comment est-ce que ça s'articule avec cette question de l'éducation, de la reconnaissance en établissement de l'éducation prioritaire?
Nous, très clairement, en fait, ces dispositifs, s'il n'y a pas des moyens conséquents qui les accompagnent, on pense que c'est des slogans, que c'est vide de sens, totalement. C'est-à-dire que je prends le dispositif CLA, auquel est rattachée l'école Mandela. Le dispositif CLA, avant qu'on intervienne, c'était un enseignant pour 3 écoles, donc un tiers temps. Donc quand on compare à ce qui est attribué, un enseignant supplémentaire, j'entends, quand on compare à ce qui est attribué aux écoles qui font partie du dispositif REP+, on voit que c'est largement insuffisant et que ça ne permettra pas de résoudre les difficultés auxquelles sont confrontés les collègues. Notre école, faisons-la ensemble, ce qu'on dénonce, c'est que c'est une logique du travailler plus pour gagner plus, en fait. Parce qu'on demande à des collègues de rédiger des projets, de prouver sur le terrain qu'on fait bien notre travail. Donc c'est des démarches administratives très lourdes. Et ensuite, si on a la chance de voir son projet, donc là je sais que les collègues... et voulait potentiellement, je crois, faire un projet science, si on a la chance de voir son projet reconnu, éventuellement, on va avoir quelques moyens débloqués pour l'école.
Donc, c'est une logique d'appel à projet.
Totalement. Donc, non seulement ça nous demande des missions supplémentaires, et personne n'ignore que là, les écoles vont mal parce que les enseignants sont à bout de souffle et portent les établissements à bout de bras. Donc c'est très compliqué de demander des missions supplémentaires aux collègues. Et en plus, ça met en concurrence des écoles parce qu'il va falloir se distinguer pour avoir le meilleur projet, pour avoir des fonds supplémentaires. Donc là, nous, ça, on le rejette en bloc. Ce qu'on demande, c'est des moyens sans aucune forme de contrepartie, en fait, pour ce genre d'école.
Vous disiez que là, l'Académie, le rectorat de Nantes, en tout cas, qui englobe toute une région académique bien plus vaste, devait trouver les moyens de supprimer 22 postes d'enseignants à la rentrée. C'est dans la lignée des années précédentes. Comment est-ce que la situation évolue ?
Alors, ouais, pour être tout à fait précis, dans l'Académie de Nantes, donc pour les 5 départements, le rectorat a demandé de supprimer 78 postes dans le premier degré. Pour le 44, pour le département, c'est moins 22 postes. Donc en fait, ces chiffres, ils disent à peu près tout. C'est-à-dire que nous, sur le terrain, on passe notre temps à revendiquer des moyens supplémentaires. Ça veut dire des moyens humains, ça veut dire des équipes plus complètes sur le terrain, donc des enseignants en plus, des enseignants spécialisés en plus, des AESH en plus, des médecins, des infirmiers, infirmières scolaires en plus. On sait qu'on a besoin de ça. Et la logique ministérielle, c'est une logique qui va à contre-courant. C'est-à-dire qu'on diminue les postes disponibles au concours. Et ensuite, on va combler par des recrutements de contractuels qui vont leur coûter un petit peu moins cher. Donc il va falloir vraiment, vraiment qu'on réussisse à inverser cette tendance si on est vraiment attaché au service public d'éducation et à la réussite de nos élèves.
Les critères d'attribution et de suppression ?
Alors avant, on avait des critères faciles à objectiver parce qu'il y avait des seuils à ne pas dépasser par classe. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais par contre, la directrice académique a une attention un peu générale sur les effectifs. Donc on fait à peu près des moyennes de combien d'élèves il pourrait y avoir par classe. Et la directrice académique regarde aussi l'indice de position sociale des écoles. Donc les écoles qui sont dans des quartiers plus pauvres, plus défavorisés, normalement doivent avoir une attention particulière. Mais fonctionner avec une dotation de moins 22 dans le département, c'est quelque chose qui est absolument inadmissible. Et on ne peut pas répondre à des logiques de... On peut absolument pas poursuivre avec ces logiques comptables qui vont à l'encontre de la justice sociale pour beaucoup d'écoles, parce que là, le résultat de la carte scolaire, mon organisation syndicale a voté contre, parce qu'on ne peut pas admettre qu'il y a encore autant de fermetures dans le département. Ça va continuer à dégrader les conditions de travail et les conditions d'apprentissage pour les enfants.
Quand vous parlez de la souffrance du corps enseignant dont vous faites partie, hein, comment est-ce que ça se traduit ? Est-ce que c'est vraiment une question de moyens et d'effectifs de classe qui se joue ?
Alors, je pense que s'il y a une revendication qui est très largement partagée par tout le monde, c'est d'abaisser les effectifs par classe. Alors, on est un des niveaux en France par rapport aux autres niveaux européens où on est un des pays où il y a le plus d'élèves par classe. Ce que ça change très, très, très clairement, c'est qu'aujourd'hui, quand on arrive dans une classe, et je le sais parce que je fais partie de ces enseignants-là, malheureusement, ben on va être obligé de choisir. On va choisir les élèves qu'on va aider en priorité. Parce qu'en fait, on n'a tout simplement pas le temps. On a des effectifs trop chargés. Si on veut prendre correctement dans son ensemble les singularités et les difficultés de tous les élèves, on a besoin de réduire les effectifs pour pouvoir travailler en petits groupes, pour avoir une attention particulière pour chacun, chacune. Et aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est que les enseignants et enseignantes subissent une forme de maltraitance institutionnelle. On a l'impression sur le terrain de ne pas pouvoir faire correctement notre métier, de ne pas pouvoir aider correctement les élèves. Et je pense que ce n'est pas un hasard si notre système scolaire français excelle dans amener très loin des élèves qui sont dans des classes sociales très favorisées, mais exclure très vite du système scolaire des élèves qui viennent de milieux défavorisés. On a une des écoles en Europe qui reproduit le plus les inégalités sociales par son système scolaire.
Comment est-ce que vous allez continuer à entretenir le rapport de force à la fois en local et en national?
Alors pour la situation spécifique de Mandela, comme je le disais tout à l'heure, on va continuer de faire pression auprès du ministère pour revoir la carte d'éducation prioritaire afin qu'elle soit effectivement rattachée. Après, moi, j'ai pas encore eu le temps de faire le bilan avec l'équipe à Mandela pour savoir comment est reçue la nouvelle d'une ouverture de classe en plus. C'est une bonne nouvelle, mais on sait que c'est pas suffisant, mais il va falloir qu'on discute ensemble pour savoir ce qu'on met en place à partir de la rentrée prochaine. Et puis, nationalement, nous, ce qu'on porte, c'est que, comme malheureusement l'administration est un mur, comme malheureusement l'administration passe son temps à se renvoyer la balle, il faut construire des rapports de force. Il faut construire des rapports de force, c'est-à-dire qu'il faut construire des grèves sur le terrain. Il faut faire en sorte que les familles accompagnent les enseignants et enseignantes dans ces grèves pour contraindre le ministère enfin à prendre la pleine mesure du problème et à débloquer des moyens suffisants. Hier, j'ai eu des chiffres qui vont vraiment pas dans le bon sens de la part de l'administration. Cette année, il y a eu 40 professeurs des écoles qui ont demandé à démissionner dans le 44. 40. C'est un chiffre absolument énorme. Nationalement, je crois que les chiffres, ça a été multiplié par 3 en 10 ans, les demandes de démission, parce que les collègues n'en peuvent plus. Donc il va falloir créer les conditions d'un rapport de force pour changer cette donne.
Et ça passe par la grève?
Bah, pour nous, ça passe effectivement par la grève, parce que en fait, sans rapport de force, quand on négocie avec l'administration, on a affaire à un discours qui s'apparente à de la novlangue managériale. On a affaire à une hiérarchie qui renvoie, donc, comme je le disais encore une fois, la balle à d'autres services. Donc en fait, on se rend bien compte qu'on va nulle part comme ça. Par contre, quand on leur dit bah, « nous, on arrête de travailler », on reprendra à travailler, on fera fonctionner les écoles quand vous nous aurez donné les moyens d'aider correctement tous les élèves, et bien là, ça bouge. Moi, j'ai un petit retour d'expérience où l'année dernière, avec mon école à Stéphane Hessel, on a fait une grève locale de notre école. On a envoyé beaucoup de demandes d'audience. On n'a jamais été reçus. Le jour où on a été reçus, ils se sont moqués de nous. On a refait une grève où cette fois, on leur a dit « on reprendra pas le travail si vous ne nous recevez pas ». Le matin même, on était reçus, on avait des réponses juste après. Donc nous, on croit beaucoup en ça, oui.
Au niveau du public, vous êtes enseignant depuis 10 ans. Est-ce que vous constatez en tout cas un durcissement de la situation dans le sens où il y a aussi les inégalités sociales qui se creusent, la crise sanitaire, le rapport aux écrans des élèves? Est-ce que le métier d'enseignant aujourd'hui, en tout cas tel que vous le pratiquez et vous le connaissez à travers aussi votre fonction syndicale, requiert justement davantage de moyens qu'il y a 10, 15, 20 ans?
Oui, très clairement. En 10 ans, on voit la dégradation, mais je pense qu'il faut insister sur le fait que cette dégradation, elle est liée vraiment à des effets structurels, c'est-à-dire qu'elle est liée au fait que on nous demande d'accueillir tous les enfants à l'école. Alors vous savez, il y avait encore ce dispositif d'école inclusive auquel on est très attaché. L'école inclusive, ça veut dire accueillir tout le monde, quelles que soient ses singularités, quel que soit son handicap.
Donc ça veut dire qu'avant, des enfants avec des handicaps qui n'étaient pas dans l'école publique sont maintenant intégrés?
Voilà, tout à fait, exactement. Sauf qu'on nous demande de le faire à moyen constant ou alors avec des moyens qui sont en train de diminuer. Donc ça crée ça aussi des nouvelles difficultés. Donc depuis plusieurs années, mais ça fait plus d'une dizaine d'années que ça dure, les enseignants du RASED, qui sont des enseignants spécialisés, ça a été complètement décimé. On n'en a presque plus maintenant dans les écoles. C'est des enseignants qui interviennent auprès des élèves qui ont des difficultés soit relationnelles, soit pédagogiques. Ça, on est habitué malheureusement à faire sans. Et puis l'énorme dégradation aussi, c'est qu'aujourd'hui, alors évidemment, on est épuisé. Donc quand on est épuisé, parfois on se met en arrêt de travail. Et quand on est en arrêt de travail, aujourd'hui, on n'est plus remplacé. La norme dans mon école, par exemple, mais je sais que c'est le cas ailleurs, c'est de ne plus être remplacé. L'année dernière, on a fait un compteur de jours non remplacés par les élèves. On est arrivé à 122. En une année, les enfants de mon école ont raté 122 jours de classe parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants et parce que les enseignants qui sont en place craquent parce qu'ils n'en peuvent plus et donc sont contraints de se mettre en arrêt.
Il y a une position unitaire des différents syndicats de l'éducation en local, en tout cas, et en national aussi, sur ces revendications de moyens, d'effectifs et l'usage éventuel de la grève pour instaurer un rapport de force?
Il y a une position unitaire sur beaucoup de revendications, notamment sur la baisse des effectifs et notamment sur le fait que l'enseignement, donc l'éducation nationale, a besoin d'investissements et a besoin de moyens humains et financiers supplémentaires. Il n'y a pas de position unitaire sur comment y parvenir, sur les modalités d'action. Donc il y a différents pôles, en fait. Il y a des pôles syndicaux qui pensent plutôt que ça doit passer par la grève. Et donc moi, j'en fais partie en tant que co-secrétaire de Sud Éducation. Et il y a d'autres pôles qui, alors sans refuser complètement la grève, et je ne vais pas parler à leur place, vont davantage continuer à jouer la carte de la négociation sans forcément passer par un rapport de force.
Quand on voit le rapport de force qui s'est mis en place dans la rue sur les retraites et la ligne gouvernementale eh bien pour la fin du quoi qu'il en coûte et même le retour aux 3% de déficit public défini par Bruxelles, est-ce que vous gardez quand même espoir?
Ouais, je crois qu'on n'a pas le choix en fait. En fait, pour beaucoup de collègues, pour garder un sens à ce qu'on est en train de faire, et puis si on est vraiment attaché à de la justice sociale, on n'a pas le choix, il faut garder espoir en ça. Et puis donc là, si on zoome sur ces 15 dernières années, vous avez raison, hein, c'est très difficile, on perd beaucoup. Après, si on dézoome un petit peu et qu'on voit tous les acquis sociaux, tous les conquis sociaux de ces dernières années, si on remonte même au XXe siècle, etc., ça s'est joué par des rapports de force, ça s'est joué par des grèves massives, ça s'est joué parce qu'on a contraint des administrations, des gouvernements, des ministères à débloquer les moyens et à appliquer une politique qui va dans le sens de l'intérêt général. Donc nous, on continue de croire en ça, on continue de discuter pour savoir comment se réinventer et comment faire en sorte de gagner à nouveau, mais on ne perd pas espoir.
Et puis on peut noter aussi que même s'il reste beaucoup de trous dans la raquette, comme en témoigne eh bien, la situation de l'école Nelson Mandela, la mise en place de ces zones d'éducation prioritaires pour celles qui peuvent en bénéficier a été une avancée, est une avancée.
Oui, alors vous parlez des dédoublements de classe peut-être, ou enfin en tout cas tout ce qui a été... Par exemple, donc c'était le gouvernement Blanquer qui a décidé que les classes en éducation prioritaire de grande section CP-CE1 allaient être dédoublées. Donc c'est des classes qui sont à 12-14. Donc sur le papier, l'idée est très bonne, effectivement. Mais encore une fois, nous, ce qu'on va dénoncer, c'est que c'est fait à moyen constant. Donc c'est-à-dire que là où il y a des classes à 12-14, ça veut dire que fréquemment, notamment dans les zones rurales, bah, il est encore pas rare de retrouver des classes de CE2, CM1, CM2, mais voire même d'autres niveaux à 30, 32, 33... Hier, j'étais en réunion pour justement réfléchir à cette carte scolaire. Ben, on a encore fait des calculs en voyant qu'il y a des collègues qui vont fonctionner avec des classes à plus de 30. Donc nous, on sera satisfait quand les effectifs seront réduits partout et quand il n'y aura pas cette logique un peu de déshabiller Pierre pour habiller Paul ou des choses comme ça. Je veux juste saluer encore une fois le courage, la détermination, parce que c'est absolument exemplaire ce que fait l'école Nelson Mandela depuis un an, notamment des familles, parce que c'est pas simple d'être confronté à l'administration de l'éducation nationale, et elles n'ont jamais lâché, et les collègues sont toujours là, donc je veux leur apporter tout mon soutien et leur dire que le combat continue.
Nous sommes avec Ségolène Amiot, donc la députée de la circonscription 3 des Loires Atlantiques, donc la zone située dans la zone de Saint-Herblain, où est située l'école Nelson Mandela. Comment est-ce que vous avez pu accompagner cette mobilisation qui a eu lieu à l'école Nelson Mandela, avec les parents d'élèves, les instituteurs?
Bonjour, ça fait déjà un an que je les accompagne. Ça a été l'objet de rencontres, de soutien sur leur mobilisation, d'être présente tout simplement physiquement lors des rendez-vous qu'ils ont pu fixer, puis l'objet de plusieurs réunions avec les parents d'élèves, avec la direction, avec les enseignants et les enseignantes, et de chercher à rencontrer le rectorat, la DASEN, le ministre depuis un an.
Et vous parlez du rectorat justement, comment vous expliquez le silence un peu ou l'absence de moyens débloqués par le rectorat face à cette question?
Ben, je l'explique tout simplement parce que la carte scolaire aurait dû être révisée déjà il y a 3 ans. Ça n'a pas été fait, c'est quelque chose qui a repoussé encore et encore et encore. Et que effectivement, les moyens que chaque rectorat obtient est lié à cette carte scolaire. Et donc voilà, l'école Nelson Mandela, il y a 3 ans, a été oubliée dans cette carte scolaire. Et c'est une erreur qu'il faudrait qu'on rectifie rapidement, mais le ministère de l'Éducation repousse encore et encore le moment où il va falloir refaire cette carte scolaire. Et ce qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui, le ministère renvoie la balle au rectorat qui n'a pas les moyens de répondre à ça, donc qui renvoie la balle au ministère. Et voilà, on a un serpent qui se mange la queue.
Et quelles actions, en fait, du coup, pour éviter que ces écoles, bah, comme vous venez de dire, oubliées, enfin, ces écoles orphelines, quelles actions pourraient être mises en place?
C'est déjà, il y a un premier travail qui est le travail de recensement, mais j'ai envie de dire, c'est très, très facile. Hein. Je pense que chaque rectorat aujourd'hui en France qui se retrouve avec une école orpheline est parfaitement au courant. Les parents d'élèves, les directeurs et directrices et les enseignants ont déjà su se manifester. Donc le travail il est presque déjà fait, hein, de recensement de ces établissements, et tout simplement ensuite de débloquer les fonds, les moyens nécessaires pour accompagner ces établissements scolaires. Là, il s'agit d'un établissement qui coche toutes les cases pour obtenir le statut et surtout les moyens d'une REP plus qui n'en a pas le statut. Même pas de REP tout court. Enfin, ça signifie les moyens en plus pour des profs en plus, en fait, tout simplement, hein, pour pouvoir scinder certaines classes en deux, pour pouvoir accompagner au mieux les élèves, etc.
Là, on parle de Nelson Mandela, qui est donc environ, enfin, on estime à peu près à 500 autres écoles orphelines, dans ce cas-là, au niveau national, qui sont hors classement de REP, qui n'ont pas les moyens attribués par rapport à ces enjeux auxquels ces écoles font face. Et comment vous, à l'échelle nationale, vous faites un peu rayonner cette question ou exister cette question, par exemple, à l'Assemblée
Bah écoutez, ça a été déjà en rappelant à l'ordre le ministère de l'Éducation sur ces questions-là, en rappelant les obligations et les promesses, notamment liées à la carte scolaire. Qui a été donc qui aurait dû être renouvelée il y a plus de 3 ans en essayant de rappeler l'objectivité des demandes au ministre. Je lui ai remis plusieurs dossiers de plusieurs établissements en lui faisant justement remarquer à quel point toutes les cases sont cochées, tous les critères qui sont les leurs pour établir que tel ou tel établissement nécessite des moyens supplémentaires sont réunis. Malgré tout, il ne se passe rien. Donc là, la dernière étape a été d'interpeller le ministre. On a eu des réponses, mais des réponses qui renvoyaient au bon vouloir du rectorat. Rectorat qui nous dit « je n'ai pas les moyens ». Moi, je l'ai interpellé plusieurs fois, le ministre Pape Ndiaye, sur cette question, que ce soit en commission de vive voix, que ce soit de façon un peu plus discrète, en lui remettant des courriers ou en lui faisant parvenir des dossiers d'école, parfois pas très discrètement, puisque parfois j'ai pu l'afficher aussi sur mes réseaux sociaux, parce qu'il y a une vraie attente des parents derrière. Quand je vous dis ça, c'est que ce sont des courriers qui sont remis, qui me sont remis par les parents, par les enseignants, et qui attendent d'interpeller le ministre. Et donc j'ai essayé de faire ça à plusieurs reprises. Et malheureusement, moi je me retrouve face à quelqu'un qui ne prend pas cette décision. Ça fait voilà un an que moi j'ai l'impression qu'on est un peu baladé, ni plus ni moins. Que toutes les personnes en face nous disent bah, c'est pas moi qui peux prendre cette décision. Et du coup, moi, je pose la question, en fait, qui peut la prendre si le ministre de l'Éducation ne peut pas? Comment on avance? Je crois que l'étape d'après, c'est d'aller demander tout simplement à celui qui tient les cordons de la bourse et puis d'aller voir le ministre des Finances. Bien, il faut nous débloquer les moyens pour ces écoles, en fait.
J'ai un peu cherché dans le programme de la France Insoumise, le parti auquel vous êtes affilié. J'ai pas réussi à déterminer un peu les grandes lignes ou d'une potentielle proposition sur cette question de l'école prioritaire et l'éducation prioritaire. Est-ce que vous avez des propositions concrètes qui pourraient être appliquées plus facilement pour lutter contre les inégalités à l'école?
Ah ben, il y a des choses très très simples, mais en fait, le programme qu'on propose, il s'applique tellement à tout le monde qu'il n'y aurait plus forcément besoin de ces cartes scolaires. C'est-à-dire que dans le programme, par exemple, on estime que se retrouver à plus de 20 élèves par classe, c'est trop, en fait. Et c'est d'ailleurs l'un des objets de cette carte scolaire et de l'éducation prioritaire, c'est de pouvoir scinder des classes en deux et donc avoir tout simplement un nouvel enseignant pour faire une nouvelle classe. Ben nous, ce qu'on propose, c'est que toutes les classes, elles soient comme ça, tout simplement. Alors c'est sûr, ça demande beaucoup d'enseignants, ça demande aussi du coup de revaloriser le métier d'enseignant, de les payer à leur juste valeur.
Vous venez d'entendre Ségolène Amiot, la députée de la circonscription 3 de Loire-Atlantique. Maintenant, laissons place à Bertrand Affilié, le maire de Saint-Herblain, qui va nous parler de son point de vue. Bonjour, que fait très concrètement la ville de Saint-Herblain pour soutenir la mobilisation qui a eu lieu à Nelson Mandela?
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. La ville de Saint-Herblain, depuis de nombreuses années, en l'occurrence moi-même en tant que maire, a solliciter les ministres successifs de l'éducation, les recteurs, rectrices, directeurs académiques, etc., pour attirer l'attention sur l'école Nelson Mandela. Et par ailleurs, nous avons aussi voté un vœu au conseil municipal, je crois en fin d'année dernière, pour demander le rattachement de l'école Nelson Mandela à un réseau d'éducation prioritaire existant.
Et vous, en tant que maire, quelle est votre marge de manœuvre pour soutenir cette mobilisation et obtenir en fait plus de moyens pour cette école?
Notre marge de manœuvre, c'est essayer d'accompagner autant que possible les enseignants, les parents d'élèves, notamment pour obtenir des rendez-vous auprès des institutions scolaires, institutions qui ne les recevraient peut-être pas forcément aussi facilement. Et puis par ailleurs, on répond aussi présent, j'allais dire pécuniairement, budgétairement, puisque sur l'école Nelson Mandela, nous maintenons nous les moyens que nous avions décidé d'attribuer quand elle bénéficiait de ce qui s'apparentait au maintien des moyens de l'éducation prioritaire par l'éducation nationale. Donc nous, on a maintenu l'effort. Si jamais on obtient des dédoublements de classes, eh bien, il faudra qu'on trouve des locaux et qu'on mette en œuvre des locaux pour permettre ces dédoublements. Donc voilà, nous, c'est tous les aspects matériels et puis l'aspect, j'allais dire, un peu influence et capacité à essayer d'agir auprès des différentes institutions.
Et justement, pour agir auprès de ces différentes institutions, j'imagine qu'il faut faire une pression pour entretenir un rapport de force assez important. C'est ce que nous disait le représentant de Sud Éducation ce matin, notamment auprès du rectorat. Est-ce que vous avez un poids particulier pour faire un peu changer les positions ?
Écoutez, on a sans doute un peu plus de poids que monsieur, madame, tout le monde. Après, la difficulté, c'est de se faire entendre des plus hautes autorités de l'État, en l'occurrence le ministre. Et c'est pour ça qu'on va, lundi, on a un conseil municipal à 14h, et avant le conseil municipal, on va faire une petite manifestation de l'ensemble des groupes du conseil municipal pour expliquer pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire que l'école Nelson Mandela soit classée en réseau d'éducation prioritaire et pour le moins, à court terme, bénéficie des mêmes moyens, même en n'étant pas encore classée dans un réseau d'éducation prioritaire, puisqu'on nous annonce pour l'année 2024, mais ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'on nous annonce ça, une révision de la carte de l'éducation prioritaire. Et on va aussi, je pense, faire signer par l'ensemble des membres du conseil municipal un courrier qui va être envoyé au ministre de l'Éducation nationale pour montrer la sensibilisation de tout le conseil, toute tendance politique confondue, pour réussir tout simplement à obtenir plus de moyens pour cette école et pour ses enfants qui en ont besoin, tout simplement.
Le rectorat, justement, vient d'annoncer hier soir, je crois, qu'un poste en plus sur les trois demandés à Nelson Mandela vient d'être créé, qui permettrait un dédoublement de classe, je crois. Est-ce que vous avez encore un espoir que la refonte de la carte scolaire ait lieu d'ici la rentrée 2020?
On sait que ça ne sera pas avant la rentrée 2023. Donc nous, ce qu'on demande, c'est des moyens, comme si l'école était en réseau d'éducation prioritaire. Donc un poste, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut que le nombre de postes corresponde aux moyens. Et puis surtout, il faut aussi que les enseignants disposent d'un même nombre de jours de formation et de la reconnaissance indemnitaire de l'éducation prioritaire. C'est aussi important pour stabiliser les équipes dans l'école et pour éviter un turnover trop important.
Merci beaucoup Bertrand Affilier de votre temps et d'avoir partagé avec nous votre point de vue. C'est donc la fin de cette émission consacrée à la mobilisation de l'école Nelson Mandela et des questions autour de l'éducation prioritaire. Vous verrez écouter le podcast sur le site jetfm.fr et continuer de soutenir la mobilisation de l'école Nelson Mandela au travers les réseaux sociaux Instagram et Twitter Parents Mandela. À l'antenne dans un instant, Pensée Locale, le programme Cours de la Frappe, la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Bonne soirée sur Jet.
Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale
et citoyenne. Écologie, économie sociale et solidaire, en pays nantais et au-delà.
Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Charlotte, de l'établi, du coup, je suis chargée de développement enfance, famille, jeunesse, ici à l'établi depuis septembre de l'année dernière.
C'est quoi ton rôle spécialement ici ?
Alors, c'est de faire tout ce qui se passe à l'établi, mais auprès d'un public plus jeune. Voilà, rendre accessible notamment le bricolage auprès des jeunes, des enfants, et puis des familles, aussi des parents qui ne savent pas forcément bricoler. Pouvoir accompagner leurs enfants dans une démarche de découverte, de réparation et de bricolage.
Donc là, ça s'appelle l'établi. C'est quoi le but de cet endroit-là ?
Alors, l'établi, c'est une association d'échange de savoir-faire manuel, où les gens, les personnes adhérentes peuvent venir bricoler, réparer des objets, les transformer, se tester. De base, c'était une bibliothèque d'objets. Dans la bibliothèque d'objets étaient mis à disposition tous les outils qu'avaient les personnes chez elles, dont elles ne se servaient pas ou qu'elles avaient en double, comme par exemple une perceuse, des broussailleuses, un broyeur à végétaux. Enfin voilà, on est vraiment spécialisé maintenant dans les outils de bricolage et de jardinage. Donc les personnes peuvent venir emprunter des outils ou venir directement sur place utiliser ces outils pour bricoler dans l'espace. Donc on a un espace bois, un espace métal et un espace sans poussière dans lequel on peut avoir du tricot, de la couture, de la maroquinerie, de l'électricité, de la réparation de vélos. Voilà, c'est assez large.
Je vois qu'il y a plein de machines qui sont là à disposition, qui ont l'air assez complexes. Moi, personnellement, je ne me verrais pas les utiliser. Il y a un accompagnement, j'imagine, pour aider toutes ces personnes à les utiliser, ces machines.
Oui, tout à fait. Et puis même les personnes qui connaissent déjà l'utilisation de certaines machines, on les accompagne au moins pour une première prise en main, jusqu'à temps d'être autonomes sur les machines, parce qu'elles ont toutes leurs petites spécificités. C'est des machines qui nous ont été mises à disposition ou données par des personnes de passage ou des personnes adhérentes. Donc c'est vrai qu'on accompagne les personnes jusqu'à temps qu'elles soient autonomes sur les machines.
Toi, ça fait quelques mois que tu es ici déjà. Vous êtes combien à l'établi ?
En termes d'adhérents, il y a plus de 400 adhérents. Il y a eu une bonne vingtaine de bénévoles et on est 4 salariés. C'est 400 personnes de la dernière année parce que les adhésions sont valables pendant 12 mois. On est à plus de 1500 personnes depuis le début. Ça a été créé en 2015. Donc ça fait 8 ans maintenant que l'établi existe. Et les personnes qui deviennent adhérentes peuvent être soit de passage express emprunter une fois une tondeuse ou alors des personnes qui passent tous les mois, une fois par an pour réparer un meuble, assembler un t-shirt, voilà. C'est l'occasion de venir sensibiliser les gens et de pouvoir démontrer ce qu'on fait sans qu'il y ait forcément d'achat de réaliser. Après, il y a aussi des gens qui viennent des partenaires, du coup, avec la perspective de venir réaliser, donc là, d'accompagner des jeunes pour venir réaliser à l'établi, voilà.
Vous avez de nombreux partenaires ici à l'établi ?
Tous les acteurs socio-éducatifs d'Angers, principalement, voilà, ça nous arrive d'intervenir pour la ville directement, pour des associations annexes. La semaine dernière, on a travaillé avec la mission égalité et diversité de la ville d'Angers. Le lendemain, on était avec Angers Loire Habitat directement sur place, dans le parc Saint-Exupéry, en centre-ville. Le jour d'après, on travaillait avec un groupe de France Terre d'Asile. Bon, voilà, c'est divers et varié.
Ça ratisse très très large, en fait. Oui. Vous avez une action très très large, oui, sur un domaine, le bricolage, qui rassemble tout le monde, j'imagine.
Oui, parce que là, du coup, ce que tu vois à l'établi, c'est que la partie où on accueille les personnes ici au local, mais pour faire vivre l'association, on répond à de nombreuses prestations qui se déroulent en extérieur. En dehors de ces temps-là, on va faire des interventions. Donc c'est des interventions autour du bricolage, on va voir de la petite construction comme n'importe quoi, mangeoire à oiseaux par exemple, ou de la petite réparation jusqu'au gros chantier participatif où là on intervient du coup. C'est pas des commandes qui nous sont passées, on vient les réaliser avec des habitants et habitantes d'un quartier, par exemple, sur la construction d'un bar, d'une flexi-ourte, voilà, des choses un peu plus conséquentes où là on apprend aux gens sollicités du coup par une association, une structure, à participer et à apprendre des choses par notre biais.
Un reportage de Nicolas Mercier pour Radio G.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.